à Rencontre spirituelle aujourd'hui. Je considère qu'il est bien impossible de ne pas le faire. C'est le 150e anniversaire de l'apparition de Marie à la Salette dans les Alpes françaises, c'est-à-dire dans le sud de la France. La Salette est très connue par une grande partie de la population. C'est survenu au siècle dernier, le samedi 19 septembre 1846, dans un site absolument magnifique, où par la suite ont été fondés les missionnaires de Notre-Dame de la Salette, et il y en a à Montréal. Ils sont responsables, d'ailleurs, en particulier, de la paroisse Notre-Dame de la Salette, qui est située en plein cœur de Montréal, sur l'avenue du Parc, au nord de Sherbrooke. C'est une église assez moderne, avec l'hôtel dans le centre et les bancs tout autour. Il y a un endroit qui vénère plus particulièrement Notre-Dame de la Salette, et ces missionnaires sont très au courant, évidemment, de tout ce qui entoure cette étonnante apparition à laquelle ont adhéré en particulier Léon Blois, Paul Claudel, et aussi les Maritains Jacques et Raïssa Maritain. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je signale que des gens très importants ont adhéré à cette apparition, parce que souvent, moi le premier, on était porté à rejeter cette apparition à cause des premières paroles de la Sainte Vierge. Je vous raconterai ça tout à l'heure, qui sont des paroles très étranges, mais je crois parvenir, grâce à la documentation que m'a fournie le curé de la paroisse Notre-Dame de la Salette ici à Montréal, en particulier une admirable brochure qu'on peut se procurer à sa paroisse pour le simple prix de 10 $, mais ça en vaut beaucoup plus. C'est rempli de photos en couleur, de textes très bien faits, et je m'en inspire de très près. La Salette, pour certaines personnes qui m'écoutent, est peut-être un nom inconnu. Et pourtant, on trouve ce nom un peu partout, non seulement sur l'avenue du Parc, mais en Bolivie, aux Philippines, en Angola, au Madagascar, même à la pointe de l'Inde, où il y a des catholiques, là. Il y a d'ailleurs une église à la pointe de l'Inde qui date du temps de Saint-Marc, dit-on, et qui s'est ralliée à l'église catholique de Rome en 1925. Ils sont maintenant catholiques, bien que leurs évêques et leurs prêtres soient vêtus de façon complètement différente des nôtres et qu'ils aient des traditions différentes. On retrouve la Salette en Pologne, en Biélorussie, en Ukraine aussi. Évidemment, dans toutes les Amériques, du nord, du centre et du sud. Et même en Indonésie. Puis évidemment en Europe. Je vous ai dit qu'il y avait une congrégation de missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Il y a aussi des sœurs de Notre-Dame de la Salette. Il y a même d'autres communautés qui s'y réfèrent. Il y a des pèlerins, des saints, des écrivains qui ont chanté ce mot de Salette, que l'on retrouve exprimé dans d'autres langues, et qu'ils ont transformé le mot de Salette en Saletinski, Saletta, Saletinaire. Et on peut aujourd'hui retrouver ce nom à la devanture, ou au fronton, si on veut, des écoles, des gymnases, dans des paroisses, des centres spirituels, des coopératives même pour le développement, des coopératives pour le développement, pour aider les gens qui souffrent. Des foyers d'accueil pour les malades, les lépreux, leurs familles, et aussi des ateliers d'handicapés, et des lieux de pèlerinage. C'est dire que l'activité qui est sortie, activité chrétienne, qui est sortie de ce 19 septembre 1846, couvre, pour ainsi dire, la planète. Et l'origine, la Salette, pourtant, c'est un petit village inconnu au fond d'une vallée perdue, là, dans les Alpes françaises, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des petits villages, une douzaine, là, qui s'accrochent dans les plis de la montagne, dans une espèce de, disons, un cirque de montagne, qui monte jusqu'à 2200 mètres. Il y a des torrents qui dévalent, des petits torrents qui dévalent de ces pentes, et tout ça converge vers des endroits sombres et sinueux. Un passage obligé pour rejoindre le reste du monde, d'ailleurs. Il faut passer par là. Ces gens-là vivent, au fond, à l'écart. Hein? Disons que c'est un peu dans la région de Grenoble, donc de la Grande Chartreuse, etc. Et le petit village de Corps, C-O-R-P-S, garde la sortie de ce monde un peu à part. Et c'est lui qui établit ce village, la jonction avec la Grande Route. Mais rien donc ne semble destiner ces lieux cachés un peu et à part à devenir aussi connus. Mais voici donc le 19 septembre 1846, un gamin puis une bergère qui poussent chacun leurs quatre vaches montent dans les alpages, c'est-à-dire les pâturages qui sont déserts, qui dominent le village de la Salette. Et après une matinée sans histoire, mais ils rencontrent, dans cette solitude, et vous le verrez tout à l'heure, je vous expliquerai ça en détail, une dame qu'ils ont trouvée plus belle que le jour. Et tout en pleurs, elle converse avec ses deux gamins. Et après avoir gravi un sentier sinueux, bien, elle disparaît dans la lumière. Mais je vous dirai dans détail tout ce qui s'est passé. Le soir même, les enfants en ont parlé à leurs maîtres respectifs. Ils avaient des patrons, évidemment, des maîtres. Et dès le lendemain, bien, la rumeur commence à courir et le garçon, qui est vif, insouciant, il a 11 ans, l'âge de mon petit-fils Pascal, je sais ce que c'est qu'ils sont insouciants, bien, il s'appelle Maximin Giraud. Il a remplacé pendant une semaine, c'était la première fois qu'il travaillait, un berger malade. Quant à la fille, elle était plus âgée, elle avait 15 ans, 14 ans en fait. Elle allait avoir 15 ans. Mélanie Calva. Elle était sans service depuis 5 ans dans les fermes des environs. Elle, c'est une petite fille timide hein, et taciturne. Puis l'un et l'autre répondent aux questions là, très très simplement, avec beaucoup beaucoup de justesse. Quand les questions qu'on leur pose, et leurs témoignages concordent, et leurs récits qu'elles vont signer dès le lendemain des apparitions, mais tout le monde va s'en emparer, les curieux, les croyants, les enquêteurs, les journalistes, même les autorités civiles, et évidemment les autorités religieuses, mais il y aura aussi des détracteurs qui vont l'attaquer, des illuminés, qui y projettent tous leurs fantasmes. J'ai ici devant moi le livre de Kevin McClure, « Les visions de la Vierge Marie, mythe ou réalité ». C'est un livre assez bien fait qui raconte très bien les apparitions de la Salette dans un de ses chapitres, mais qui conclut à la fin que c'est impossible. Simplement parce qu'il ne veut pas, au fond. Il est un peu comme moi, qui ne voulait pas tellement. Mais j'avoue que l'intérêt que j'y porte maintenant à la Salette m'a fait changer d'avis. Donc, après 5 ans de discernement, et au terme d'une enquête exacte et sévère, bien, l'Église atteste la réalité de l'événement. Elle reconnaît la belle dame, comme les enfants l'appelaient, c'est Marie, la mère de Jésus, celle qui a reçu mission au pied de la croix d'être la mère de tous ceux, puis de celles qui cherchent, qui doutent, qui cheminent dans la foi. Moi qui ai eu beaucoup de doutes dans ma vie, c'est donc ma mère, Marie. Et toujours présente à ses enfants, bien, Marie vient émouvoir les cœurs, hein? Elle vient interpeller nos consciences. Face à ce monde étrange qui est de plus en plus sans Dieu, sans justice et sans amour. Mais je sais pertinemment, pour bien connaître ce monde, qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, beaucoup de gens qui exercent la justice et qui sont profondément, je sais, beaucoup de gens qui sont pleins d'amour. Mais l'impression que les journaux nous donnent souvent, la télévision nous donne, les moyens de communication nous donnent, c'est pénible. Marie veut nous relever et nous remettre en marche ensemble à la suite de son fils, Jésus. Et elle le fait avec tendresse et avec vigueur dans cette apparition. Et depuis un siècle et demi, le récit de Maximin Giraud puis de Mélanie Calva trouve des échos de plus en plus profonds dans tout notre monde qui est en recherche de réconciliation. Alors voici donc le récit de ces enfants. Et je tiens à vous signaler qu'ils ne sont jamais allés ni à l'école, ni au catéchisme. Ils parlent le patois. À la mi-septembre 1846, donc un paysan, Pierre Selme, a son berger malade. Il descend à Corps chez son ami, le baron Giraud. Giraud, c'est le truc très différent. Et il lui dit, prête-moi ton Maximin pour quelques jours. Et le père dit, Mémin, c'est le surnom de Maximin, Mémin, berger, il est bien trop étourdi pour ça, il a 11 ans. On discute et on transige, le 14 septembre, en l'exaltation de la Sainte-Croix, donc, voici le jeune Maximin aux Ablandins, c'est là où on fait paître les troupeaux. Le 17, il aperçoit Mélanie dans le village. Le 18, ils vont garder leurs troupeaux sur les terrains communaux, sur un mont, une montagne tout près, là, sous les baisses, le plano, ça s'appelle. Je donne les détails parce qu'on a tous les détails précis. Et c'est assez charmant dans ces régions, tout a un nom. Et l'après-midi, bien, Maximin cherche à lier conversation, mais Mélanie ne tient pas du tout. Elle le trouve trop léger, trop jeune. Il pense rien qu'à jouer avec son chien, d'ailleurs. Il se découvre cependant un point commun. Tous deux sont de Corps. Ils ne se connaissaient pas. Il y avait un peu plus de 1000 habitants, puis ils étaient l'un à un bout du village, l'autre à l'autre bout, et donc assez loin l'un de l'autre. Et alors, en cause, on décide de venir garder ensemble demain, au même endroit. Et donc, le samedi 19 septembre 1846, il y a 150 ans aujourd'hui, de bon matin, les deux enfants gravissent les pentes du mont sous les baisses, et chacun pousse son troupeau de 4 vaches, et avec, en plus, pour Maximin, sa chèvre, et puis son chien, Loulou. Et le soleil resplendit sur les alpages, donc sur les pâturages en haut des montagnes. Et au milieu de la journée, l'Angélus sonne tout en bas, au clocher de l'église du village, et alors les bergers mènent leurs vaches vers la fontaine des bêtes, une petite mare que forme le ruisseau qui dévale un ravin. Puis, ils les chassent vers une prairie qu'on appelle le chaumoir, ou on chaume quoi, sur les pentes du mont Gargas. Il fait chaud et les bêtes se mettent à ruminer. Maximin et Mélanie, bien, elles remontent là, jusqu'à la fontaine des hommes, on appelle ça comme ça. Près de la source, donc, ils prennent leur repas. Ils ont de la bonne eau et ils mangent du pain puis un morceau de thom. On peut acheter ça, mon frère, c'est du pain qu'on fabrique en... du fromage qu'on fabrique en Savoie. Alors, les petits bergers qui gardent plus bas, bien, les rejoignent. Puis là, bien, on fait causette. Et après leur départ, Maxime et Mélanie franchissent le ruisseau et descendent de quelque part vers deux bancs de pierres empilées près de la cuvette sèche là, de la source d'Ari. Puis ils déposent leurs choses. Et contrairement à leurs habitudes, les deux enfants s'étendent sur l'herbe, ils s'endorment. Il fait doux au soleil, cette fin d'été, pas un nuage dans le ciel, il y a le murmure du ruisseau. Et brusquement, Mélanie se réveille, puis elle secoue Maxime, puis elle lui dit « Mémin, viens vite, que nous allions voir nos vaches. Je ne sais pas où elles sont, et rapidement... » Ils montent la pente opposée du mont Gargas et se retournant, ils aperçoivent leurs vaches qui ruminent tranquilles. Et à mi-pente, tout à coup, Mélanie s'immobilise. Et puis, elle s'étonne et elle lâche son bâton et elle dit « Mémé, regarde voir là une clarté. Une clarté. » Et près de la petite source, sur un des bancs de pierre, il y a un globe de feu. C'est comme si le soleil était tombé là. Et pourtant, le soleil continue de briller dans un ciel sans nuages. Et Maximin court en criant « Ouh, ouh, ouh !» Et Mélanie tend le doigt vers le fond du ravin où ils ont dormi. Et Maximin s'arrête près d'elle, figé de crainte, et lui dit « Garde ton bâton, va. Moi, je garde le mien. Je lui donne un bon coup s'il nous fait quelque chose. » Et la clarté bouge, remue, tournoie sur elle-même. Les mots manquent aux deux enfants pour signifier l'impression de vie qui rayonne de ce globe de feu. Et une femme y apparaît, assise, la tête dans les mains, les coudes sur les genoux, dans une attitude de profonde tristesse. La belle dame de la Salette se lève. Mélanie et Maximin, je vous le rappelle, 14 et 11 ans, n'ont pas bougé. Elle leur dit en français, Eux qui parlent le patois, ils comprennent le français quand même, hein. J'avais déjà rencontré en Savoie comme ça sur un plateau très haut, où j'étais allé pour visiter l'église d'Assy en 1949, je crois, ou 50. Un berger, je lui ai parlé français, il comprenait, mais il me répondait en patois. Et j'avais bien de la misère à comprendre ce qu'il me disait. Et alors, elle leur dit en français, « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Alors, ils descendent vers elle, ils la regardent, et elle ne cesse de pleurer. Ça me fait penser à ce beau livre de François Varillon sur la souffrance de Dieu. Vous savez, on a beaucoup de difficultés à comprendre que dans l'au-delà, on puisse pleurer et souffrir. Eh oui. Alors, les enfants disent, on aurait dit une maman que ses enfants auraient battu et qui se seraient ensauvés dans la montagne pour pleurer. Ensauvés, c'est amusant. Alors, la belle dame est grande et toute de lumière, puis elle est vêtue comme les femmes de la région. Elle est vêtue comme les femmes de la région. C'est pour ça, quand on regarde les statues de Notre-Dame de la Salette, on est un peu surpris. Elle a une longue robe, un grand tablier à la taille, un fichu, vous savez, sur les épaules, croisé et noué dans le dos. Un bonnet de paysanne. Mais elle a des roses qui couronnent sa tête et qui bordent son fichu et ornent ses chaussures. Aussi, elle en a trois endroits. À son front, et ça j'avais jamais su avant, la lumière étincelle comme un diadème. Et c'est ça qui fait cette espèce de forme de chapeau quand on voit des statues de Notre-Dame de la Salette. C'est pas un chapeau, c'est pas un diadème, c'est de la lumière qui étincelle. Et sur ses épaules pèse une lourde chaîne. Une chaîne, plus fine aussi, retient sur sa poitrine un crucifix éblouissant, disent les enfants. Oui, éblouissant, on peut pas le faire quand on représente, évidemment. Avec d'un côté, au bout d'un bras de la croix, là, un marteau. Puis de l'autre, des tenailles, c'est-à-dire, si vous préférez, des pinces. Des tenailles, ça ressemble à des pinces, c'est pour arracher des clous, arracher des choses. La belle dame parle aux deux bergers. Les enfants racontent, elle a pleuré tout le temps qu'elle nous a parlé. C'est triste cette apparition finalement. Vous allez voir. Ensemble ou séparément, les deux enfants redisent les mêmes paroles avec des variantes légères, là. Ça n'a aucune importance sur le sens de leurs paroles et leurs témoignages, même quand ils sont séparés l'un de l'autre. Peu importe leurs interlocuteurs, ils se sont fait questionner, vous n'avez aucune idée, par des pèlerins, des simples curieux, des notables, des ecclésiastiques, des enquêteurs, des journalistes. Et qu'ils soient favorables, sans prévention, malveillants, voici ce qui leur est transmis. C'est les paroles de la Sainte Vierge. Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Ils disent, nous l'écoutions. Nous ne pensions à rien. Nous ne pensions à rien. C'est assez sympathique, des enfants, nous ne pensions à rien. J'ai même vu une casquette que l'on vend ces jours-ci, c'est écrit dessus, je ne pense à rien. C'est terrible. Maximin et Mélanie, eux, laissent résonner au fond de leur cœur ce que la Sainte Vierge dit sur la montagne. Ils l'écoutent en regardant sur sa poitrine, ce crucifix qui brille. Et les premières paroles sont étranges de la bouche de la Sainte Vierge. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir. Et cette parole m'a toujours tellement gêné que je ne continuais pas la lecture et je me disais, si son fils est comme ça, ben j'ai peine à le croire, mais... Le curé de Notre-Dame de la Salette m'a fait voir la semaine dernière un très beau vidéo sur les apparitions. Et un père de la Salette fort intelligent et cultivé nous rappelle que dans le Magnificat, le cantique de Marie dans Saint-Luc, que l'on chante à l'office, il est bien dit, « Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, point virgule, et on ajoute, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. C'est donc une expression biblique que j'ai de la difficulté à accepter, mais je l'accepte. Je m'incline. Donc, si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Or, j'ai de la difficulté à accepter ça, mais il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir. Mais la lecture du Magnificat me convainc. « Depuis le temps que je souffre pour vous, dit-elle, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, on sait bien que le fils Jésus ne nous abandonne pas, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Mais enfin, c'est une façon de parler. C'est une façon pour émouvoir le cœur des enfants et le cœur des hommes et des femmes. « Si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, en d'autres termes, si vous ne voulez pas vivre comme dans une impression d'être abandonné, dans le fond du péché où vous vous plongez, là. Mais elle dit, je suis chargée de le prier sans cesse pour vous autres. Vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous. Là, elle parle au nom de Dieu. Elle dit une phrase qui sort de la bouche de Dieu, au fond. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. Or, la Vierge, elle dit que c'est ça qui a pesanti tant le bras de son fils. Et aussi ceux, ajoute-t-elle, qui mènent les charrettes et qui ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ils sont comme des Québécois, hein? Ce sont les deux choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Elle parle d'une récolte qui se gâte, et c'est tout à fait une prédiction juste, c'est ce qui va arriver, exactement, c'est vérifié. Elle dit, je vous l'avais fait voir l'an passé par les pommes de terre. Les enfants comprennent pas ça, pommes de terre, parce que pour eux, des pommes, c'est des pommes, puis des patates, c'est des patates. Alors, l'ont passé par les pommes de terre, et vous n'en avez pas fait cas. Elle ajoute au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez et vous y mettiez le nom de mon fils au milieu. Elles vont continuer, et cette année, pour la Noël, il n'y en aura plus. Elle le sait d'avance. C'est pas qu'elle le fait, ou que Dieu le fait, et la nature. Alors le mot « pomme de terre », je vous l'ai dit, intrigue Mélanie, en patois, on dit « la truffa ». Et le mot « pomme », ben c'est le fruit du pommier. Alors, elle se tourne donc vers Maximin, pour lui demander une explication, mais la dame le prévient. « Vous ne comprenez pas, mes enfants? Je m'en vais vous le dire autrement. Si la récolta se gasta, n'est rien qui perd vous autres. Vous l'avez où, fa faire, etc. » Elle parle de la truffa. Ayant repris les dernières phrases en patois de corps, celui qui est parlé couramment par Maximin et Mélanie, ben la belle dame poursuit, toujours en patois, « Si ava des blas, faou, palou, semena, si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront. Et ce qui viendra tombera en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine, dit la Sainte Vierge. Avant que la famine vienne, les enfants au-dessous de 7 ans, écoutez bien ça, prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Et c'est ce qui est arrivé. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix deviendront vides, les raisins pourriront. Et c'est en effet ce qui est arrivé aux noix. Soudain, la belle dame continue de parler, mais seul Maximin l'entend. Mélanie voit remuer les lèvres, mais ne l'entend pas. C'est un peu comme à Medjugorje. Hein? Quelques instants plus tard, Mélanie, à son tour, peut l'écouter. Tandis que Maximin, qui n'entend plus rien, fait tourner son chapeau, se mettre son bâton, il est jeune, hein? Puis de l'autre extrémité, bien, du bâton, là, il pousse devant lui des petites pierres, il s'amuse, quoi, c'est un enfant. Hein. Et puis, mais il fait la réflexion, il dit, pas une n'a touché les pieds de la belle dame. Il faut vous dire que personne ne pouvait passer, en fait, entre la belle dame et eux, ils étaient très, 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 très près. Et quand il dit ça, que pas une pierre a touché les pieds de la belle dame, c'est qu'il veut s'excuser. Hein. Et il dit, elle m'a dit quelque chose en me disant, tu ne diras pas ça, ni ça, et après, je n'entendais rien, et pendant ce temps, je m'amusais. Et ainsi, la belle dame a parlé en secret à Maximin, puis à Mélanie, de nouveau, tous les deux ensemble. D'ici se convertissent là, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé, et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Puis elle dit, « Faites-vous bien votre prière, mes petits? » « Pas guère, madame, » répondent les deux enfants. « Ah, mes petits, il faut bien la faire, soir et matin. » ne diriez-vous qu'un pater et un ave Maria, quand vous ne pourrez pas faire mieux? Et quand vous pourrez mieux faire, dites-en davantage. » Elle leur dit, l'été, il ne va que quelques femmes, un peu âgées à la messe. Ça ressemble au Québec, ça. Les autres travaillent le dimanche tout l'été. L'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie comme les chiens, c'est-à-dire qu'ils mangent la viande, quoi. Pendant le carême, autrefois, on ne mangeait pas de viande. N'avez-vous jamais vu du blé gâté, mes petits? Non, madame, ils répondent. Alors, elle s'adresse à Maximin, puis elle lui dit, mais toi, mon petit. Puis elle lui rappelle un souvenir qui montre tout de même quelque chose d'étrange, hein. Moi, je peux pas croire que ce petit garçon a inventé ça. C'est pas possible. Et voilà. Elle lui dit, mais toi, mon petit, tu dois bien en avoir vu une fois vers le coin, c'est un endroit, avec ton papa. Le maître du champ dit à ton papa d'aller voir son blé gâté. Vous y êtes allé. Il prit 2-3 épis dans sa main, les frotta et tout tomba en poussière. Et la Sainte Vierge continue en disant, en vous en retournant, quand vous n'étiez plus qu'à une demi-heure loin de corps, ton papa te donna un morceau de pain en te disant, « Tiens, mon petit, mange encore du pain cette année, que je ne sais pas qui va en manger l'an qui vient si le blé continue comme ça. » Et Maximin répond, « C'est bien vrai, madame, je m'en souviens maintenant. Tout à l'heure, je ne m'en souvenais pas. » Et la belle dame de conclure, non en patois mais en français, « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » Elle fait un pas sur sa gauche, Maximin s'écarte un peu pour lui laisser le passage. Elle franchit le ruisseau et commence à gravir la pente opposée. Et sans se retourner, elle dit, « Allons, mes enfants, faites-le bien passer à tout mon peuple. » Alors tout est dit, la Vierge gravit un sentier sinueux qui monte du fond du ravin vers un petit col et parvenue au sommet, bien la belle dame s'élève à la hauteur 1,50 m environ. Là, les enfants qui l'ont suivie sont tout près, la rejoignent et elle regarde vers le ciel puis vers la terre et tournée vers le sud-est, elle fond dans la lumière, elle disparaît. Lentement disparaissent la tête, les épaules, le reste du corps. Maximin n'aperçoit plus qu'une rose au pied de la belle dame. Alors il essaie de la saisir, mais sa main se ferme, elle est vide. Et la clarté disparue, Mélanie hasarde une réflexion. C'était peut-être une grande sainte. Et Maximin répond, si nous l'avions su, nous lui aurions dit de nous amener avec elle. Alors les enfants n'ont pas identifié encore celle qu'ils ont rencontrée sur la montagne, mais en fin de soirée, ils redescendent. Ils ont fini de travailler, garder les vaches. Et pour s'excuser de n'être pas allé se faire contrôler par son maître durant l'après-midi, le jeune Maximin n'a qu'une réponse. « Maître, c'est que Mélanie et moi, nous avons rencontré une belle dame qui nous a fait deviser longtemps. Alors, eh bien, lui dit-il, allons voir Mélanie chez les Prats. Les Prats, c'est la ferme voisine. » La grand-mère est sur le pas de la porte. Maximin l'interpelle. « Hé, mère Caron, n'avez-vous point vu une belle dame en feu passer dans les airs au-dessus du vallon? » Et quelques instants plus tard, dans la cuisine où tout le monde est réuni, bien Maximin fait son récit en français, puis en patois. Et Mélanie, qu'on a dû aller chercher à l'étable, elle confirme en tout point. « Mais oui, ils sont pas ensemble. C'est la Sainte Vierge que ces petits ont vue, s'écrie la grand-mère Prat. » Celle que... qui se fait appeler Mère Caron. Car il n'y a qu'elle au ciel dont le Fils gouverne. Il n'y a qu'elle au ciel dont le Fils gouverne, dit la grand-mère. Alors le lendemain, dimanche, là, on mène les enfants chez Monsieur le curé. Il entend le récit avant la messe et il est bouleversé. Mais ce ne sera pas si facile que ça, vous allez voir. Ce jour-là, en chair, il bredouille, il est ému jusqu'aux larmes, parce qu'il a vu la sincérité des enfants. Et alors, la rumeur va vite. Le maire, lui, est alerté, il décide de monter aux Ablandins, dans l'après-midi, pour interroger les deux jeunes bergers. Mais Maximin, qui a fini son remplacement chez Pierre Selme, a déjà regagné corps, et monsieur le maire va perdre sa soirée et a essayé de mener Mélanie dans des sentiers difficiles, qu'elle se trompe, qu'elle se dédise finalement. Il promet, il menace, il essaie même d'acheter à prix d'or son silence. Mais rien n'y fait. La dame m'a dit de le dire et je le dirai. » Alors impressionné, Jean-Baptiste Prat, Pierre Selm, leur voisin Jean Moussier, ont la même idée ce soir-là, de mettre par écrit, sous la dictée de Mélanie, les paroles de la Vierge. Et grâce à eux, le premier document écrit sur le fait de la Salette sera le discours de la Sainte Vierge. Et il sera daté, écoutez bien, du lendemain même de l'apparition. Tous les trois vont y apposer leur signature. C'est très important. Le lundi, Monsieur le maire, descendu à Corps pour interroger Maximin, reviendra vaincu par l'assurance, la candeur et la ténacité du gamin. Son témoignage, en effet, concorde parfaitement avec celui de la bergère. Alors, rapidement, la nouvelle se répand. Les pèlerins, les curieux, les incroyants, les observateurs viennent interroger, menacer, tenter les deux témoins. Ils essaient de les faire se contredire, et parmi eux, des journalistes, des envoyés des pouvoirs civils, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais surtout des enquêteurs mandatés par l'évêque de Grenoble. C'était lui, évidemment, l'évêque qui revient de se prononcer. Et dès le 9 octobre 1846, donc 20 jours plus tard, il publie une lettre. Il interdit à ses prêtres de parler de l'événement, tant qu'il n'aura pas lui-même, évêque, donné son jugement, après un examen, dit-il, qui ne pourra être qu'exact et sévère. Heureusement qu'on a des évêques et des autorités, une certaine hiérarchie pour mettre le holà devant des événements pareils. Nous sommes privilégiés dans l'Église. On crie souvent contre les évêques, mais souvent ils ont plus de tête que nous. Pas toujours, toujours, dirait-on. Mais quand? La plupart de nos évêques sont aujourd'hui d'excellents évêques. Et en fait, l'évêque se tient au courant de tout ce qui se passe sur la montagne, ainsi que de l'évolution des enfants. Et M. Mélin, l'archiprêtre de Corps, lui sert de relais. Alors, des enquêteurs officiels sont chargés d'établir un dossier sur le fait, sur les témoins, sur les suites de l'événement. Ils vont déposer leur rapport devant une commission constituée intentionnellement de partisans et d'opposants. Les avocats du diable, comme on disait autrefois. Alors, cette commission, qui est présidée par l'évêque, va entendre les deux bergers puis les responsables de leur éducation. Elle va laisser la liberté de parole aux contradicteurs. Et ses conclusions n'en sont que plus convaincantes, c'est-à-dire les enfants n'ont été ni trompeurs, ni trompés. S'ils avaient voulu tromper, là, ils en étaient bien incapables. Ils étaient absolument incapables, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une telle invention. Et dès 1847, l'année suivante, l'évêque est convaincu. Mais, avec prudence, durant 4 ans, il préfère continuer à s'informer et à consulter. D'autres enquêteurs poursuivent leurs investigations de leur côté. Et on peut signaler les travaux non officiels, mais remarquables, de deux prêtres, l'abbé Lagier, originaire de Corps, et l'abbé Lambert, d'Avignon, qui remettent le rapport en février et mai 1847, donc 6 mois après les apparitions à peu près, et un peu plus. Alors, ils questionnent les enfants patois, ils notent leurs réponses, avec une fidélité très très scrupuleuse et bien d'autres à citer. Il faut consulter pour ça 3 gros volumes, parus aux éditions du Cerf, qui sont les éditions que publient les Dominicains très avertis et la maison d'édition religieuse très sérieuse, Desclée de Brouwer. Il y en a qui prononcent de Brouwer, mais c'est un nom belge, et en Belgique, on prononce Brouwer, comme on dit la Wallonie. Alors, ces 3 volumes sont intitulés La Salette, document authentique. Le 19 septembre 1851, donc, au 5e anniversaire, Mgr Philibert de Bruyard, évêque de Grenoble, publie le mandement doctrinal, voici le texte officiel de l'Église, donc local. Nous jugeons que l'apparition de la Sainte Vierge à 2 bergers le 19 septembre 1846, sur une montagne de la chaîne des Alpes, située dans la paroisse de la Salette, de l'archiprêtré de Corps, porte en elle-même tous les caractères de la vérité, et que les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine. Le retentissement de ce mandement est considérable, évidemment. De nombreux évêques le font lire dans les paroisses de leur diocèse. La presse s'en empare, pour le meilleur ou pour le pire, et traduit en plusieurs langues. Il paraît notamment dans l'Observatore Romano du 4 juin 1852, donc l'année suivante. Et les lettres de félicitations affluent à l'évêché de Grenoble. Et l'expérience puis le sens pastoral de Mgr Philibert de Bruyère ne s'arrêtent pas là. Alors là, le 1er mai 1852, il publie un nouveau mandement annonçant la construction d'un sanctuaire sur la montagne de la Salette, dans un site absolument magnifique, et la création d'un corps de missionnaires diocésains qu'il nomme les missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Je vous le rappelle, nous en avons à Montréal, à l'église Notre-Dame de la Salette, où on célèbre ce soir, à 7h30, une grande fête en l'honneur de Notre-Dame de la Salette. Et l'évêque ajoute, « La Sainte Vierge est apparue à la Salette pour l'univers entier qui peut en douter. » L'avenir allait confirmer, dépasser ses attentes, et le relais étant assuré, on peut dire que Maximin et Mélanie ont rempli leur mission. Alors, le 19 septembre 1855, donc au 9e anniversaire, le nouvel évêque de Grenoble, Mgr Ginouillac, résumait ainsi la situation. Il dit « La mission des bergers est finie, celle de l'Église commence. L'Église doit amener ses fidèles. Les fidèles doivent, eux qui sont l'Église, entendre cet appel à la conversion. Cesser de sacrer, cesser de blasphémer. Respecter le dimanche, prier. Retourner vers l'amour, qui est Dieu, retourner son regard, son cœur et tout son être. Se convertir, se retourner. Innombrables sont aujourd'hui les hommes et les femmes de toute race et de tout pays qui ont trouvé dans le message de la Salette le chemin de la conversion, l'approfondissement de leur foi, le dynamisme pour la vie quotidienne, les raisons de leur engagement avec et dans le Christ au service des hommes. L'apparition de notre mère sur la montagne de la Salette, dit Mgr Ullathorne, évêque de Birmingham, en Angleterre, qui est allé là en 1854 pour vérifier tout ça. L'apparition de notre mère sur la montagne de la Salette n'est pas une nouvelle doctrine, c'est une nouvelle grâce. C'est la révélation de l'amour et de la pitié qui règne pour nous dans les cieux. En effet, la révélation entière et définitive de l'amour de Dieu pour nous et pour notre salut, c'est qui? C'est Jésus, c'est quelqu'un. Nous ne sommes pas les gens d'un livre. Nous sommes les gens de quelqu'un, les chrétiens, et c'est Jésus. Nous vénérons sa parole, nous la portons en procession durant la messe, nous la lisons et la proclamons, et nous voulons en vivre. Nous sommes évangéliques, mais nous sommes d'abord des chrétiens. Nous portons le nom de Christ, à la fois totalement homme et totalement Dieu. Jésus est le seul et parfait réconciliateur, et sa vie humaine, sa mort sur une croix, sa résurrection dans la vie même de Dieu. Mais ça fait de lui pour nous le chemin, la vérité et la vie. Et j'aimerais ajouter que ce soit dans l'Église ou hors d'elle, toute autre révélation ne prend valeur que dans la mesure où elle se rattache de quelque manière que ce soit à Jésus. C'est la foi de l'Église, une foi qui nous engage à marcher selon l'Esprit de Jésus vers celui qu'il nomme « mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu ». C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des apparitions. Dans ce bel ouvrage, Les routes de Dieu de René Laurentin, magnifique livre, magnifiquement édité, il rappelle que les apparitions sont fréquentes dans la Bible d'Abraham et Moïse aux prophètes et dans le Nouveau Testament, où apparaissent des anges durant l'enfance, l'agonie, la résurrection du Christ, Moïse et Élie à la transfiguration, puis dans les actes des apôtres, les langues de feu à la Pentecôte, la vision d'Étienne, la vision à Saul, Ananie, Corneille, Pierre aussi à Joppé, puis en prison, etc., etc. Des apparitions dans la Bible. Faut-il toutes les rejeter? Faut-il croire que Dieu ne se manifeste plus jamais? Que Marie ne peut pas se manifester? Quand survient un événement comme celui de la Salette, la première démarche à faire est de vérifier son authenticité, c'est évident. Oublier de le faire serait s'exposer à bien des errements par la suite. Et la première question qui se pose est celle-ci. Les témoins, Maximin et Mélanie, sont-ils crédibles? non pas d'une manière vague et générale, mais directement en ce qui concerne le fait précis. Or, les enquêteurs officiels, je vous le rappelle, et les autres, se sont longuement interrogés sur le témoignage des deux enfants, et la conclusion s'énonce en quelques mots. Je vous le répète, les deux bergers n'ont été ni trompeurs ni trompés. S'ils avaient voulu tromper, ils en auraient été bien incapables. C'est impossible pour eux d'inventer une telle histoire pour ses nombreuses implications. Ils ne possédaient pas les éléments nécessaires à son élaboration, c'est évident. Des enfants ignorants. Et de plus, Maximin et Mélanie, qui ne connaissaient pas la veille, leur caractère était très différent. Le garçon était vif et bavard, et très léger. La fille, elle était renfermée, puis un peu taciturne. La concordance de leur témoignage est d'autant plus impressionnante. Une fois établie, l'authenticité du fait se pose. Une seconde question. Celle de sa conformité avec la foi de l'Église. On ne peut pas croire n'importe quoi. On ne peut pas croire non plus n'importe comment. Il faut éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux inspirés sont répandus de par le monde. Ce qui peut y en avoir, avec toutes ces sectes, et toutes ces séparations, et ces églises sans nombre, des petites églises. Éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux inspirés sont répandus de par le monde. C'est dans Saint Jean, dans la première épître, chapitre 4. Marie à la Salette ne vient pas nous apprendre quelque chose de nouveau. Elle vient, quoi? Nous manifester la présence dans notre monde et notre vie de la force de salut qui est dans le Christ Jésus. Elle vient nous supplier avec larmes d'en faire cas. Et telle est la base de son intervention. C'est pour cette raison que nous sommes fondés à la croire indubitable et certaine, disent les autorités. Nous pouvons alors, et alors seulement, procéder à la vérification évangélique. Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Et depuis un siècle et demi, bien, les fruits de conversion n'ont pas cessé de se multiplier partout où le fait de la Salette a été proclamé. Comment se fait-il que j'ai pris tant de temps à comprendre? Moi, pourquoi? Ajoutons encore deux remarques. Cette vérification n'est valable qu'après avoir répondu à la première question, l'important étant le lien entre le fait de la Salette et la guérison ou la conversion. Et si ce lien existe, alors on peut en toute vérité reconnaître à l'œuvre la grâce spécifique de la Salette. Il y a une deuxième observation, c'est très important. Cette grâce nous oriente où? Vers la découverte du Christ présent, présent à nos vies. Le Christ nous délivre du mal. Il ouvre nos cœurs aux malheurs de ce monde. Il nous intègre. Oui, il nous intègre à l'action, puis à la louange de l'Église. Et quand on est uni au Christ à la messe, nous sommes en union avec le Christ qui loue, proclame la gloire de Dieu notre Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. Mais encore faut-il être en amour avec Jésus pour aller à la messe? Désirer aussi communier, le recevoir pour mieux proclamer notre amour pour Dieu notre Père. Vivre en chrétien, c'est vivre en union avec Jésus et épouser ses sentiments, sa volonté, ses désirs. Alors il s'agit de s'intégrer à l'action et à la louange de l'Église par les moyens qui sont à notre portée, la prière, la véritable participation à l'Eucharistie. C'est ça que Marie demande. La grâce de la Salette, pour tous ceux et celles qu'elle touche, nous renvoie donc à l'essentiel de la foi. Il serait dangereux de négliger un moyen aussi efficace, à mon avis. Et sur la poitrine de la belle dame, Jésus crucifié, je vous l'ai dit, rayonne dans la lumière de la résurrection. Puis il est le germe, la croissance et le parfait achèvement de la foi. L'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Ah, si nous reconnaissons qu'il est notre Dieu, nous devenons son peuple. La Salette n'est pas une dévotion de plus, c'est un élan nouveau vers l'essentiel de la foi. C'est un rendez-vous à ne pas rater, puis c'est une grâce à laquelle il est urgent de répondre. Dans Carnet de notes, Jacques Maritain écrit à la page 114, « L'histoire que je vais vous raconter commence en 1915, la guerre bat son plein. Nous connaissons et aimons la Salette depuis plusieurs années. Nous avons lu « Celle qui pleure ». Et la vie de Mélanie par elle-même. C'est cependant une neuvaine à la Salette à Heidelberg. Une neuvaine à la Salette à Heidelberg que Raïcha C'est la femme de Maritain, une juive convertie, gravement malade, a été guérie et a connu une joie merveilleuse en recevant l'extrême-onction. C'est à la salette qu'il nous a été donné de prier avec confiance pour la conversion d'Ernest Psychary, le petit-fils de Renan. C'est en descendant de la salette que nous avons reçu le sacrement de confirmation. La fraîcheur des impressions éprouvées là-haut, et pour employer le mot de Rusbrock, le goût délicieux du Saint-Esprit, qu'on y a si peu que ce soit senti, sont quelque chose d'ineffaçable. Il écrit bien des choses sur la salette, Jacques Maritain, et Léon Blois aussi en a écrit de belles. Léon Blois écrit « La nouvelle que nous apporte Marie, c'est qu'elle souffre pour son peuple. Elle n'a pas d'autre évangile à nous proposer que celui de Jésus crucifié entre le marteau et la pénitence pour tous les hommes et les tenailles, ou les petites pinces, de l'holocauste volontaire. On s'offre à Dieu volontairement par amour. C'est l'amour qui mène le chrétien dans tout ce drame spirituel admirable. » J'aimerais terminer avec une petite prière. Une prière de Saint Maximilien Kolbe. Ô Vierge Immaculée, oui, Vierge Immaculée, élue entre toutes les femmes, pour donner au monde le Sauveur, servante fidèle du mystère de la rédemption, donnez-nous de répondre à l'appel de Jésus et de le suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père. Vierge toute sainte, arrachez-nous au péché et transformez nos cœurs. Ô Reine des apôtres, faites de nous des apôtres, qu'en vos mains toutes pures, nous devenions des instruments dociles et aimants, pour achever de purifier et de sanctifier notre monde pécheur. Partagez en nous le grave souci qui pèse sur votre cœur maternel et aussi votre vive espérance qu'aucun homme ne soit perdu. Ah, que la création entière puisse avec vous, ô Mère de Dieu, tendresse de l'Esprit-Saint, célébrer la louange de la miséricorde et de l'amour infini.